Et l'Éternel sauve ceux qui l'invoquent, ceux qui croient en l'œuvre de Jésus-Christ et qui se repentent. Et nous allons ensemble ouvrir nos Bibles dans le psaume 122. Le psaume 122 que nous allons lire maintenant et qui fera l'objet de la prédication. Cantique des montées de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je cherche ton bonheur. Et nous allons lire deux autres textes qui se trouvent dans un seul livre à la fin de la Bible, où on a certains échos ou certaines explications que nous verrons tout à l'heure. Apocalypse, au chapitre 7 déjà, les versets 9 à 12, qui nous rappellent les tribus qui viennent à Jérusalem, et qui dit ceci. « Après cela, donc cela se passe au ciel, je regardais, voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des pales à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Il y a un deuxième passage, toujours dans le livre de l'Apocalypse, mais au chapitre 21, des versets 2 à 4, où il nous est parlé aussi de Jérusalem dans cette partie ici, qui donc fait le lien entre Jérusalem et l'épouse de Christ. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes dans le psaume 122, que nous allons voir et y revenir. Le pèlerin, s'il n'avait aucune énergie, imaginez quelqu'un qui n'a pas d'énergie du tout, aucune, ben il ne peut pas avancer. Il ne pourrait pas se déplacer. Et bien de même, si le Saint-Esprit n'agit pas dans nos cœurs ce matin, nous n'avons aucune énergie, si l'on veut, pour comprendre la parole de Dieu. Nous comptons donc sur son œuvre dans nos cœurs, que l'on puisse saisir cette parole. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage avec les cantiques des montées, qui nous accompagnent donc sur ce chemin qui nous conduit vers la Jérusalem céleste. Alors, il est possible que quand vous partez en voyage, vous prenez un guide de voyage, pour savoir où sont les endroits qu'ils sont intéressants à visiter ou pour connaître le pays. Eh bien, pour notre voyage que nous entreprenons en devenant chrétiens, il y a aussi un guide, et ce sont en fait, quelque part, ces psaumes 120 à 134, comme un guide de voyage qui nous accompagne tout au long de ce voyage. Et le psaume 120 parle de notre départ de la ville de destruction, nous l'avions vu ensemble. Le psaume 121 nous a aussi rassurés en nous indiquant que le pèlerin a quelqu'un qui le garde. Et celui qui le garde est plus inébranlable que les montagnes. Il garde notre départ, et notre arrivée. Et ce matin, le psaume 122 nous fait en fait anticiper la destination. Et quand on anticipe la destination vers laquelle on va, eh bien, il y a commencé à y avoir de la joie dans notre cœur. Quand on commence à anticiper la destination qui est devant nous. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « Le lieu de joie et de paix du pèlerin ». Le lieu de joie et de paix du pèlerin. Et ce psaume nous amènera à développer trois points que j'ai intitulés « La parole qui anime la joie », « Le lieu qui suscite la joie » et « La perspective pour le lieu de joie ». Alors commençons par notre premier point qui donnera le ton en fait à tout le psaume. C'est le verset 1 qui va nous y conduire, nous pouvons le relire. Donc, cantique des montées de David. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». » Juste avant d'entrer dans cette parole qui amène à la joie, il est intéressant de noter que c'est le premier psaume des montées qui est attribué à David. David, vous voyez qui c'est ? Alors, on fait appel un peu à notre connaissance biblique, hein ? Donc David, c'est celui qui a eu l'idée, le désir et qui a tout mis en place pour construire une maison pour l'Éternel à Jérusalem. C'est lui en fait, c'est David qui a eu le désir, enfin qui a eu l'idée, qui a eu le désir, qui a tout mis en place pour construire donc cette maison pour l'Éternel à Jérusalem. Dieu, c'est vrai, a voulu que ce soit son fils Salomon qui construise l'édifice, mais c'est David qui en a fait les plans de base de ce temple. Et qui a fait beaucoup de préparatifs, qui a mis beaucoup de matériaux de côté pour que ce temple puisse être construit. David, en fait, ne supportait pas de vivre dans un palais alors que la présence de l'Éternel était manifestée dans une tente. C'était le tabernacle, la première maison de l'Éternel, si on veut, où il manifestait sa présence parmi son peuple. David aimait tellement Dieu qu'il voulait que l'Éternel puisse avoir un lieu pour manifester sa présence qui soit mieux que son propre palais. Et sachant cela, nous comprenons que David chérissait et se réjouissait d'entendre lorsque quelqu'un disait « Allons à la maison de l'Éternel ». Les paroles éclatantes qui débutent ce psaume et lui donnent tout son sens sont donc particulièrement joyeuses. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Cela signifie que chaque fois qu'on proposait à David d'aller à la maison de l'Éternel, qui était, c'est vrai, encore le tabernacle, mais ensuite le temple, eh bien cela déclenchait quelque chose en lui. Cela déclenchait de la joie. Bon, qu'est-ce que la joie ? Tu peux réfléchir à cette notion, c'est quoi la joie ? Et je vais essayer de vous décrire ce qu'est la joie, et vous allez voir si ça correspond un petit peu à l'idée que vous en faites de cette joie. Bon, premièrement, il y a une définition du dictionnaire qui dit ceci, que la joie est une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Bon, c'est un petit peu complexe, disons, quand on le prend comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a réfléchi ensemble avec Marlise, d'ailleurs, je lui ai demandé, la joie, ça te fait penser à quoi ? Puis on a réfléchi ensemble, et puis j'ai pris quelques idées aussi qu'elle a amenées. Voici ce qu'il en est ressorti. Vous allez me dire si vous vous retrouvez aussi dans cette manière de voir la joie. Eh bien, lorsque nous sommes dans la joie, nous voyons la vie en couleur. Nous sommes remplis de contentement. Le corps est détendu, enjoué, tonique. L'âme est tranquille. Nos entrailles se réchauffent. Nous avons une sensation de bien-être. Nous sommes épanouis. Ému positivement. Nous voyons l'avenir avec confiance malgré les difficultés, le passé avec reconnaissance. Le sourire nous vient aussi facilement aux lèvres et nous avons envie de partager ce délicieux sentiment qui épanouit notre visage. La joie provoque la louange, nous ouvre aux merveilles de Dieu et nous rend motivés, enthousiastes. Alors je ne sais pas si ça vous fait un peu écho. Est-ce que c'est ça la joie pour vous ? Alors, je ne sais pas si c'est cela pour vous, mais je peux bien imaginer que le pèlerin qui chante ce psaume a ses attitudes, en tout cas quelques-unes de ses attitudes et de ses sentiments. La joie d'aller à la maison de l'Éternel. Je suis sûr que vous avez déjà vécu des moments de joie, même si c'était parfois de courte durée. Par exemple, à tout hasard, la joie d'avoir réussi un examen ou terminé un travail. Ou la joie de recevoir quelque chose que l'on désirait depuis longtemps. Ou la joie d'être guéri, ou la joie de voir quelqu'un qui va mieux, qui est guéri. La joie de la naissance d'un enfant. La joie de comprendre et saisir l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Et je souhaite que chacun l'ait déjà vécu et continue à la vivre. Il y a tant de joies différentes, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas toutes la même intensité, ou la même profondeur, ou la même durée, c'est vrai. Il est dit ici dans le psaume 122, vous l'avez lu avec moi, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Le roi David est dans la joie lorsque les membres du peuple de l'Alliance désirent aller à la maison du Seigneur. Et donc les pèlerins, lorsqu'ils se déplacent pour aller à ce lieu, chantent ce psaume en se réjouissant. Et la raison de la joie est une parole qui contient deux aspects. Vous avez vu, je suis dans la joie quand on me dit, il y a une raison pourquoi je suis dans la joie. Il y a deux aspects que l'on trouve dans cette parole qui est dite. La première, c'est « allons ». Allons. Allons qui signifie que quelqu'un nous invite à l'accompagner. Ce n'est pas une joie solitaire. Ce verbe indique également un déplacement. Je ne peux pas rester dans mon coin. Allons. Allons. Et ce verbe est suivi du deuxième aspect. À la maison du Seigneur, à la maison du Seigneur, qui indique en fait le lieu de joie. Quel est ce lieu de joie? Eh bien, c'est là où Dieu, le Créateur, le Rédempteur, a choisi de se manifester. C'est là qu'il y a la joie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est dit dans le psaume 43, verset 4, que c'est Dieu notre joie. Donc c'est quand même où il est que nous allons nous aussi entrer dans cette joie. Et avant d'appliquer ce point à nos vies, il me semble utile de préciser ce que signifie la maison de l'Éternel, Jérusalem, de comprendre un petit peu cela aussi pour nous. Eh bien, comme nous l'avons entendu au début de ce culte, nous pouvons dire que la maison de l'Éternel est ce lieu où nous nous trouvons actuellement. Car Jésus a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Nous pouvons également dire que la maison de l'Éternel, c'est le lieu de résidence éternelle vers lequel nous nous dirigeons et où nous vivrons la plénitude du salut. Le salut est déjà pleinement accompli et il sera pleinement appliqué. Et nous nous réjouissons d'être dans ces lieux célestes. Et dimanche passé, nous avons entendu parler d'une notion que je vais reprendre. J'étais reconnaissant à Bertrand de l'avoir fait puisqu'il nous a parlé de la notion du « déjà » pas encore. Souvenez, déjà, pas encore. Eh bien, ce concept théologique du déjà, pas encore, nous aide en fait à comprendre que la Bible nous parle de choses qui sont déjà accomplies et effectives maintenant, alors que d'autres ne sont pas encore effectives, mais arriveront avec certitude. Et la notion de la maison de Dieu, qui indique le lieu de la manifestation de la présence de Dieu, est particulièrement touché par cette notion du « déjà, pas encore ». Dieu manifeste déjà sa présence maintenant, et cela particulièrement dans son Église rassemblée. Cette Église qui, c'est vrai, est disséminée dans le monde, en petits groupes comme la nôtre, c'est le « déjà ». Et Dieu manifestera pleinement sa présence lors de son retour et ensuite dans le royaume éternel où nous serons tous rassemblés. Ça, c'est le pas encore. Parce qu'il est clairement dit dans Apocalypse 21, nous l'avons lu tout à l'heure, que l'Église est la Jérusalem céleste, l'épouse de l'agneau. Le verset 2 nous disait « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et lors des prédications sur l'Apocalypse, eh bien, nous avons aussi clairement pu cerner, saisir cette vérité glorieuse. Mais nous ne sommes pas encore au jour des noces de l'agneau actuellement. Et Christ prépare l'Église, comme il le décrit d'ailleurs dans Éphésiens 5, verset 25 jusqu'au verset 27, où il est dit « Le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Eh bien, l'Église, qui est manifestée visiblement par l'Église locale que nous formons, est donc déjà un lieu de la présence de l'Éternel que nous pouvons appeler la maison de l'Éternel, ou même la Jérusalem de ce texte. Mais ce n'est pas encore le lieu où tout est parfait, où tout est sans défaut, parce que j'y suis, parce que vous y êtes, parce que nous sommes dans un monde déchu, où le péché est encore présent. Donc sur notre route de pèlerin en direction de la Jérusalem céleste, bien nous pouvons déjà exercer quelque part la joie d'aller dans la maison de l'Éternel en exerçant notre joie en allant à l'Église. Bien entendu, la joie sera encore plus grande lorsque nous irons dans cette Jérusalem céleste qui nous attend et qui est devant nous. Donc la question qu'on peut se poser, sommes-nous dans la joie lorsque nous pensons à la Jérusalem céleste? Pour nous aider parfois, eh bien, il nous faut méditer sur cette Jérusalem céleste, comprendre qu'est-ce que ça signifie pour moi. Sommes-nous conscients que Dieu est la source de notre joie? Sommes-nous conscients que c'est Dieu la source de notre joie? Sommes-nous conscients que Dieu est présent dans l'Église? Et est-ce que nous comprenons que la joie se vit ensemble et non pas en solitaire, hein? Allons à la maison de l'Éternel. Et la dernière question qui est logique, qu'on attend tous, c'est « Est-ce que nous nous réjouissons de venir à l'Église ?» Quelqu'un disait que notre joie de venir à l'Église est un baromètre de notre foi et de notre réconciliation avec Dieu et les autres. C'est comme un baromètre de notre situation devant Dieu et de notre foi, de notre réconciliation avec Dieu et avec les autres. Et je pense, c'est vrai qu'il a raison. Et je prie donc que chacun ici, nous puissions vraiment vivre dans cette foi que Dieu donne, dans cette réconciliation avec lui et les uns avec les autres. Mais est-ce que c'est juste d'aller avec joie dans la maison de l'Éternel? Ne devrait-on pas y aller avec douleur, avec pleurs, parce que nous nous présentons devant Dieu avec notre péché qui nous accuse, qui ferme quelque part les portes de la maison de l'Éternel? Alors c'est vrai que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas demander l'admission devant l'Éternel, devant Dieu, ce Dieu qui est parfait, qui est saint. La maison de l'Éternel est fermée pour le pécheur qui n'est pas purifié. Ce n'est pas possible d'entrer dans la présence de l'Éternel sans être purifié. Il est saint, il est parfait. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a fait le chemin de Jérusalem dans la douleur, l'angoisse, les larmes de tristesse qui coulaient de son visage ce jour des rameaux, alors qu'il entrait comme tous les agneaux dans Jérusalem, où il a été pour payer le prix de ce péché qui pesait sur moi, qui me fermait la porte de cette Jérusalem céleste, de cette communion avec Dieu, de cette présence si bienfaisante. Mais Jésus-Christ a payé le prix. En lui, nous sommes purifiés et les portes sont grandes ouvertes grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous pouvons dire de tout notre cœur, en saisissant le salut de Jésus-Christ, « Oui, je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Si cette première phrase du psaume donne le ton et en quelque sorte résume le psaume, le psalmiste continue et décrit différents aspects du lieu qui suscite la joie. C'est notre deuxième point, le lieu qui suscite la joie et qui seront développés à partir des versets 2 à 5 que je vous propose de relire. Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Que ce soit en réalité ou par anticipation, le pèlerin arrive à Jérusalem. La promesse du verset 3 du psaume 121 est accomplie, où il était dit qu'il ne permettrait pas que le pied du pèlerin chancelle. Il est là, il est à l'entrée de Jérusalem. Et lorsqu'il arrive, il s'arrête devant Jérusalem. Et sa réflexion et ses prières en reconnaissance à toute l'œuvre de Dieu témoignent en faveur de notre Seigneur, à la gloire de notre Dieu, qu'il l'a gardé jusque-là. C'est vrai qu'on pourrait même dire chaque dimanche lorsque nous arrivons ici, Dieu nous a gardés. Il nous a gardés. Et lorsqu'il entre, donc à Jérusalem, ici, notre pèlerin, il écarquille les yeux, il est émerveillé par les constructions, par l'unité. La ville est un ensemble solidaire, cohérent. Rien ne vient ternir l'harmonie de ce lieu béni. Or, il est évident que c'est une vision d'une Jérusalem parfaite, mais que le pèlerin discernait déjà dans la Jérusalem qu'il voyait. Il voit une ville, un ensemble solidaire, cohérent, qui ne vient, que rien ou rien ne vient ternir l'harmonie de ce lieu béni. Et si le pèlerin y voit l'unité, il y discerne aussi la diversité, en parlant de toutes ces tribus qui montent à Jérusalem. Dieu avait demandé à son peuple, vous vous souvenez peut-être dans Exode, Lévitique ou Deutéronome, où Dieu avait dit à son peuple, trois fois par année, vous montrez à Jérusalem. Et tout le peuple était appelé à monter à Jérusalem. Il montait pour la Pâque, pour la fête des prémices et pour la fête des huttes. Et chaque tribu était différente. Vous connaissez leur nom d'ailleurs, chacune a un nom différent, a des aspects différents aussi. Et pourtant, toutes ces tribus qui montent à Jérusalem ne forment qu'un seul peuple. Qu'un seul peuple. Chaque tribu a sa force et ses faiblesses, il est vrai. Mais chaque tribu est appelée, et vous le voyez dans le verset 4, la tribu de l'Éternel. Chaque tribu est une tribu de l'Éternel. La joie du psalmiste se nourrit de voir toutes ces tribus venir à Jérusalem, car c'est un témoignage de cette unité. Ils forment ensemble ce peuple d'Israël. Le simple fait qu'ils viennent ensemble dans ce lieu manifeste leur unité. Le fait de se rassembler en un lieu commun témoigne aussi de l'appartenance à ce même peuple, à une même alliance, pour venir célébrer le nom de l'Éternel, puisque c'est leur but. Leur but premier n'est même pas encore de dire on veut être ensemble, c'est d'aller célébrer l'Éternel. Et en célébrant l'Éternel ensemble, ils sont unis. Les pèlerins, en voyant les trônes à Jérusalem, donc ils parlent des trônes là dans le verset 5, eh bien, ils y voient la justice et la royauté exercée par celui qui est mandaté par Dieu. Le pèlerin, en fait, avait de la joie à se rendre auprès de son roi bienveillant pour obtenir la justice. Et David écrit tout cela pour susciter la joie du pèlerin, l'encourager à continuer sa route jusqu'à ce qu'il arrive à Jérusalem. Ou lorsque l'on marche parfois, on parle du but. Peut-être vous avez déjà marché avec des enfants ou avec des jeunes. Eh bien, il faut parler du but. Si, imaginons, vous devez faire un temps de trajet pour arriver à une maison de vacances, qui est extraordinaire. Mais le chemin n'est pas tout facile. Eh bien, lorsque vous marchez avec vos enfants pour arriver à ce magnifique lieu, vous expliquez comment est cette maison, de quelle façon chaleureuse nous y serons accueillis. Vous parlez peut-être des lits douillets, ou des fauteuils moelleux, ou du bain de mousse chaud alors qu'on est dans le froid de l'hiver. Vous parlez de la sécurité de la maison alors que vous vous trouvez peut-être sur des sentiers escarpés, en leur expliquant aussi que leurs meilleurs amis seront aussi là. Alors là, ils sont motivés à continuer, à marcher. Et de même, Dieu nous parle de notre lieu qui suscite la joie, qui nous motive à aller de l'avant. Quel est notre lieu de joie? Un lieu exprimant la parfaite unité, un lieu où des gens de toute tribu arrivent, où la justice et la royauté se pratiquent parfaitement, un lieu avec une porte ouverte. En fait, ce lieu est plutôt une personne. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ses enfants sont parfaitement unis. Son corps, qui est l'Église, est formé de personnes de toute nation, de toute langue. Et Jésus est le roi, le juge parfait. Et il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. La porte est toujours ouverte. C'est ma maison de l'Éternel. Jésus est le lieu de notre joie et il manifeste déjà sa présence dans notre vie. Et il le manifeste aussi dans son corps, qui est l'Église. Et il le manifestera pleinement lorsqu'il reviendra pour manifester sa gloire. Et nous voyons à nouveau dans toutes ces notions le « déjà, pas encore ». Nous sommes, comme nous l'avons vu dimanche passé, dans cette tension, c'est vrai, du « déjà et pas encore ». Nous avons parlé de la parole qui anime la joie, hein. Donc je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison du Seigneur ». Dans le deuxième point que nous venons de voir, quel est le lieu de notre joie? Eh bien c'est en Christ notre lieu de joie parfaite. Et nous terminons le psaume en réfléchissant sur la perspective pour ce lieu de joie. Qu'est-ce que le psalmiste désire ardemment pour ce lieu de joie? Et donc c'est ce qu'il dit dans les quatre derniers versets de ce psaume. Et le pèlerin fait en fait appel aux autres pèlerins pour les inciter à demander quelque chose à l'Éternel. Lisons ces quatre derniers versets à partir du verset 6. Demandez la paix de Jérusalem. Qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je cherche ton bonheur. La paix est demandée pour Jérusalem. La paix. Salem veut dire paix. Et les Hébreux disent que Jérusalem veut dire fondement de la paix. Mais qu'est-ce que la paix? Alors c'est vrai qu'on pourrait simplement faire référence à toutes les prédications sur l'artisan de paix que nous avons vues. Mais nous pouvons nous rappeler que la paix, c'est bien plus que l'absence de guerre. C'est l'accord, l'entente, c'est être réconcilié. C'est vivre dans le repos, la tranquillité, la sérénité, le calme, dans la quiétude. La paix. Est-ce qu'on ne désire pas la paix? Nous avons déjà vu ensemble que la poésie hébraïque ne fonctionne pas tout à fait comme la poésie française. Parce qu'en français, en fait, on écrit une phrase, puis ensuite on écrit, je vais très simple, hein, pour ceux qui ont une grande connaissance, ça sera très simple. Donc on écrit une deuxième phrase et on fait une rime, en français, hein, c'est une façon de faire de la poésie en français. Eh bien, en hébreu, ben, on ne fait pas comme ça. En hébreu, en fait, la rime, si vous voulez, se fait par le sens des mots, pas par le son. Et donc, une phrase est dite, et ensuite, elle est répétée avec d'autres mots, pour mettre une emphase, soit avec des mots qui correspondent, qui sont synonymes, ou soit des mots qui sont l'inverse, des antonymes, pour montrer qu'est-ce qu'on veut vraiment dire. Et dans ces versets ici, nous voyons ça très clairement. Le verset 6 dit « Demandez la paix de Jérusalem », et ensuite « Qu'ils vivent tranquilles », comme « Demandez la paix », « Ceux qui t'aiment », comme « Jérusalem ». voyez, ce parallélisme, il est très fort ici. Puis même avec les versets suivants, on a encore un parallélisme qui se fait entre la paix et la tranquillité. Donc ce verset 6 nous permet aussi de saisir, quand on saisit un peu ces parallélismes hébraïques, que Jérusalem, pour le psalmiste, est égal à ceux qui aiment l'Éternel. Donc ceux qui aiment l'Éternel, c'est Jérusalem, ou Jérusalem, c'est ceux qui aiment l'Éternel. Cela signifie que la demande de paix est en fait demandée pour ceux qui aiment l'Éternel. C'est pas la paix pour des murs, hein, pour la ville de Jérusalem avec ses bâtiments. C'est la paix pour des personnes, pour un groupe, pour ceux qui aiment l'Éternel. Et quand il est dit que la paix soit dans les remparts de la ville, eh bien les remparts, qu'est-ce que font les remparts? Ils entourent toute la ville, donc ils sont à l'extérieur de la ville. Donc ça signifie qu'il veut que la paix soit dans toute la ville, jusque dans ses moindres recoins. Et lorsqu'il dit que la tranquillité soit dans tes donjons, cela signifie aussi dans des places fortes, dans les lieux sécurisés, que là, il y ait la paix. Le pèlerin ne demande pas la paix pour son propre intérêt, mais à cause de ses frères, à cause de ses amis. Son regard est constamment tourné vers l'autre et non vers lui-même. C'est à cause de ses amis, à cause de ses frères qu'il demande la paix. On le voit bien au verset 8. C'est à cause de l'Éternel, c'est à cause de la maison de l'Éternel même qu'il cherche le bonheur de Jérusalem, c'est-à-dire de tous ceux qui aiment l'Éternel. C'est un vrai artisan de paix, en fait, motivé par la présence de Dieu manifestée dans sa maison. Et dans la Bible, nous trouvons plusieurs personnages qui prient pour la paix des autres, pour la paix de Jérusalem. Vous avez une idée de quelqu'un qui prie pour la paix de Jérusalem ? On a par exemple Daniel qui prie pour Jérusalem, qui se réjouit d'ailleurs que Dieu va rétablir après les 70 ans d'exil. Nous avons encore un autre, c'est Néhémie par exemple, qui prie pour Jérusalem et qui rappelle une prière de Salomon lorsqu'il avait fait la dédicace du temple, hein, la maison de l'Éternel. Et Néhémie non seulement priera, mais s'engagera activement pour la paix de Jérusalem. Or certains disent, en lisant ce psaume 122, que c'est un psaume qui nous dit que nous devons prier pour Jérusalem qui est en Palestine. Alors bien entendu que nous prions pour la paix partout dans le monde. Mais ce psaume est une prière pour ceux qui aiment l'Éternel. On vient de voir ce parallélisme qui nous a aidé à comprendre que Jérusalem, c'est pour ceux qui aiment l'Éternel. Pour le peuple de Dieu où il manifeste sa présence. Et le lieu où Dieu manifeste sa présence, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ qui est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est Jésus lui-même qui est la réponse à cette prière. Que la paix soit dans l'Église, et en fait c'est Jésus-Christ notre paix. Il est dit dans Éphésiens 2,14 que Christ est notre paix. Par Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Reprenez ce texte de Romains 5.1 qui est si fort, que c'est Christ qui nous permet d'avoir la paix avec Dieu. C'est en lui que nous avons la paix. Et la question que nous pouvons prendre avec nous, de ce psaume, de cette dernière partie, c'est une question que l'on peut se poser chaque jour. On peut se dire, prions-nous pour la paix de l'Église ? Prions-nous pour la paix de l'Église ? Un pasteur connu disait ceci. Un des principaux ingrédients pour le succès d'une Église est la paix interne. Les luttes, la suspicion, les clans et les divisions sont des choses mortelles. La paix dans l'Église devrait être chaque jour notre sujet de prière et ce faisant, la paix nous viendra. La paix à Jérusalem est l'avantage de tout homme en fait. Nos enfants, nos voisins, nos semblables ont plus de chances d'être bénis si l'Église est en bonne santé. Et pour conclure, reprenons la phrase qui introduit et résume ce psaume. Vous vous souvenez ? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et nous avons compris que la maison de l'Éternel est la destination finale des pèlerins que sont tous les croyants. Et nous avons aussi compris que pendant le chemin de vie que Dieu nous donne, il nous accorde déjà des prémices de sa maison, qui est l'église locale, lorsque nous nous rassemblons pour adorer Dieu, comme ce matin. Se réjouir de venir à l'église adorer Dieu est une préparation à la joie complète que nous aurons en arrivant dans le lieu céleste avec nos corps ressuscités. Et nous nous réjouissons de l'unité, de la beauté, de la diversité, de la gloire et du royaume de la Nouvelle Jérusalem. Et nous aspirons à cette unité centrée sur Christ dans l'Église. Nous aspirons à la paix parfaite que nous aurons dans la Nouvelle Jérusalem. Ça sera parfait. Une paix, vous pouvez imaginer la paix la plus parfaite possible, ben ça sera encore mieux. Et nous prions pour la paix dans la maison de Dieu qui accompagne notre pèlerinage. Ma prière est que chacun se réjouisse d'aller ensemble dans la maison de l'Éternel, dans notre patrie céleste, et que dans ce cheminement ici-bas, nous ayons aussi de la joie à nous retrouver dans la maison de l'Éternel, où ensemble nous adorons Dieu. Rappelons-nous ce qui est dit dans Apocalypse 22, les versets 2 à 4. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Eh bien, que dans ce chemin qui nous conduit vers ce lieu, nous nous réjouissions ensemble de nous retrouver devant l'Éternel pour l'adorer, pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre paix, qui est en fait l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu envers nous. Et bien que cette phrase puisse nous accompagner durant toutes les prochaines semaines, pour que nous puissions dire « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, c'est tellement beau de pouvoir anticiper déjà la patrie céleste. Seigneur, tu veux que nous puissions déjà réfléchir à ce lieu qui nous accueillera, où tu accueilles toute personne qui t'appartient, qui aime l'Éternel. Toute tribu de l'Éternel. Seigneur, nous pourrions dire que chaque petite église forme une petite tribu, ou que chaque famille forme une tribu. Et Seigneur, nous te remercions et te louons parce que même si nous avons chacun, chacune nos caractéristiques, tu nous permets d'entrer et de vivre dans un même peuple. Oh, quelle grâce, Seigneur, de pouvoir nous réjouir de ce que tu vas faire, de nous réjouir aussi de ce que tu fais déjà maintenant. Et nous te prions que ce lieu ici soit un lieu aussi où nous nous réjouissons de venir pour t'adorer. Que nous puissions, Seigneur, avoir dans nos cœurs vraiment cette joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là que nous voulons te prier ensemble, c'est là que nous voulons te louer ensemble, c'est là que nous voulons ouvrir ta parole et la connaître ensemble, pour nous soutenir les uns les autres. Tu nous as fait des êtres relationnels. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Tu ne l'as pas prévu ainsi. Et Seigneur, c'est dans ce lieu ici-bas, ici aussi, dans cette rue du Lac 10, que tu nous permets de vivre maintenant ce temps dans la maison de l'Éternel. Eh bien, Seigneur, nous te remercions et te louons. Et nous prions pour la paix dans ce lieu. Te prions pour la paix dans les lieux d'église qui se retrouvent actuellement, afin que tous ceux qui ne te connaissent pas encore et qui viennent dans ces lieux puissent être frappés par la paix qui règne, parce que toi tu es là et tu en es le roi. Oh, quelle grâce de pouvoir nous confier en toi, et nous pouvons que, Seigneur, nous humilier et t'implorer ton pardon pour toutes les fois où nous avons été suspicieux, où nous avons eu des paroles qui n'ont pas encouragé, mais qui ont découragé, où nous avons fait preuve de désengagement, où nous avons critiqué, où nous avons découragé même des personnes à venir dans l'Église. Seigneur, nous te demandons pardon et te prions que nous puissions être réellement remplis de cette joie de venir dans ta maison et de vivre unis dans ta main et en Jésus-Christ. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.